Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast destiné aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent se lancer, ceux qui n'osent pas se lancer, ceux qui se sont déjà lancés, enfin tous ceux qui ont envie de faire quelque chose sur internet qui soit autre chose que regarder des vidéos sur YouTube. Oui, car c'est un petit peu ma vision des choses, ma manière de penser, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Internet c'est un outil formidable et c'est un outil qui vous permet à la fois de regarder des choses, mais aussi de publier des choses. Et finalement, tout ce que l'on regarde, c'est ce que les autres ont publié. Et si vous voulez être entendu, il faut prendre le micro, il faut publier et autres. Et c'est un peu le sens de ce podcast. C'est un petit peu le sens de ce que je veux faire passer dans mes formations, dans tout ce que j'anime, etc. Et donc, d'abord, je voulais vous remercier parce que je pense que j'ai reçu beaucoup de messages et je vois qu'en fait ce message passe et que j'arrive à faire passer à peu près cette idée-là. Donc hier j'ai reçu, et les autres jours aussi, mais notamment hier, une belle salve de messages et qui m'ont fait tous chaud au cœur. Avec des questions, des interrogations, des remerciements, des messages en disant que qu'ils trouvent que le podcast est de bonne qualité, qu'il leur apporte des choses. Je suis aussi assez heureux parce que j'ai vu que certains épisodes, alors entre le podcast et le streetcast sur les tours que j'ai eu, ont un impact sur des fois la vie des gens, sur leurs idées, sur la manière de voir les choses, etc. Ils ont j'ai eu des messages super super sympas dans ce sens-là. Et donc, je voulais vous remercier tous, alors vous faire un grand merci du fond du cœur et collectivement à tous pour déjà de me prêter l'oreille et de me donner un petit peu de votre attention, un petit peu de la chose la plus précieuse que nous avons tous, c'est le temps. Parce que le temps, finalement, il passe, on ne le rattrape jamais, on ne l'achète pas, on ne peut pas aller au supermarché pour acheter du temps, à la limite, vous pouvez essayer de déléguer des choses pour gagner du temps au sens où vous ne perdrez pas votre temps à faire des choses que vous estimez pas intéressantes, mais vous le faites faire à quelqu'un d'autre. Alors je l'ai dit, parce que j'ai eu des discussions hier passé sur des services type Fiverr, etc. Moi je l'ai fait, y a des choses que je ne sais pas faire, faire mon petit logo, me dessiner moi en façon selfie, je suis pas capable de le faire. Mais par exemple faire la retranscription audio du podcast, si je voulais la faire, retranscription écrite du podcast, si je voulais la faire complètement, c'est quelque chose que je ne ferais pas parce que ça me prendrait trop de temps de le faire. L'épisode d'hier faisait 46 minutes, quand c'est un épisode qui fait 3 minutes, ça peut aller vite, mais sinon les épisodes un peu plus longs. Et j'avais trouvé des systèmes, je l'ai déjà expliqué, je redonnerai des astuces là-dessus, qu'on peut faire plus simplement. Enfin, plus simplement et plus rapidement à mon sens, c'est-à-dire que pendant que je parle, là, je peux demander à quelqu'un d'autre de retranscrire l'épisode d'hier, etc. Et finalement, j'ai réussi à me dédoubler. Voilà, c'est un petit peu la force des choses. Ça m'émet aussi. Comme je dis, ça met beaucoup de vent dans les voiles pour avancer. C'est la métaphore du maritime. Je sais pas, peut-être je rêve de plage, etc., de mer, etc. Pourtant, je fais pas de bateau. Mais j'aime bien cette expression, en fait. Voilà, c'est j'ai fait un peu de voile quand j'étais gamin, quand même. Mais le but du jeu, quand vous faites de la voile, c'est trouver le vent et puis ensuite qu'il vous fasse avancer dans le sens que vous voulez. Et puis à un moment donné, quand le vent, quand vous le trouvez bien, etc., vous bordez bien votre voile, là, vous la tendez bien. D'un coup, vous sentez que le bateau, où j'ai fait de la planche à voile aussi, ça commence, vous voyez, un petit peu à sortir un petit peu de l'eau, à planer, on appelle ça du planning, etc. Et j'ai des souvenirs, je pense que gamin, on n'avançait pas très vite sur nos bateaux, mais j'ai un souvenir, vous voyez, de ce moment où il fallait se pencher pour éviter que le bateau se renverse, etc. Et on touche l'eau. Et on a le sentiment, à un moment donné, de dire, waouh, tiens, c'est génial, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui me plaît. Voilà. Et en fait, Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je suis en train de devenir un peu plus accro au podcast. Non pas seulement parce qu'il y a des messages sympathiques, ça y participe, mais aussi parce que quelque part, je vous l'avais dit dans les premiers épisodes, il y a une question de trouver le ton, trouver sa voix, faut trouver le positionnement exact, etc. Et en fait, je m'éclate, voilà. Alors, je pense que, j'espère que vous ressentez à quel point je m'éclate à faire ça. Et donc, c'est pour ça, je vais continuer à m'éclater comme ça. Alors, je vous l'ai dit, pour l'instant, quand même, je fais une première série qui va durer jusqu'à la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, donc encore... Là, on est à l'épisode 11, 12 ou 12e. On va dire, on va faire grosso modo 20 épisodes à peu près. Et puis ensuite, ça sera un moment de pause. Alors de pause, bien sûr, il y a un aspect vacances, repos, etc. Mais il y a aussi un aspect que les sportifs connaissent bien, c'est-à-dire qu'il faut un peu laisser respirer les muscles, etc. et revenir avec d'autres idées. Moi, je sais pas vous, mais c'est quand je ne fais rien que les meilleures idées viennent et qu'on se recharge, etc. C'est aussi le moment où je lis le plus, alors même si je lis beaucoup plus qu'avant, etc. Et j'ai ressorti tout à l'heure un livre qui s'appelle Tribu de Seth Godin. Et en fait, pourquoi je l'ai j'ai ressorti? Parce que c'est un livre que j'ai envie de relire. Et je l'ai lu en fait l'été 2010, d'après le flyer que j'avais laissé dedans comme marque-page. Et c'est marrant parce que quand j'ai ouvert le livre comme ça tout à l'heure, je l'ai feuilleté et je suis tombé à une page dans laquelle il parle de la peur. Et en fait, ça m'a fait tilt un petit peu parce que beaucoup de remarques que j'ai eues de la part des gens qui ont écouté, qui ont fait des retours, etc., c'est il y a une crainte, une difficulté à se lancer. Alors les difficultés peuvent être techniques. Elle peut être une question de temps. Là-dessus, il y a le temps, et c'est quelque chose de précieux, mais quand on n'a pas le... des fois, on n'a pas le temps de faire ce qu'on souhaite. Donc là, c'est une question qui me dépasse moi, puisque après, c'est chacun à sa vie, son organisation. Il y a un problème technique, dont j'en ai parlé hier, moi j'ai donné mes méthodes, et puis il y a un problème de la peur. Seth Godin, en fait, il dit un truc qui est intéressant là-dessus. Il dit, bon, on a peur de la critique. C'est la peur la plus importante de tous, c'est la peur de la critique. J'en ai déjà parlé parce que ça touche à l'émotion, et puis on a toujours des cas intéressants de ça. Moi, j'adore montrer à mes étudiants, par exemple, le groupe Birdie Nam Nam, à un moment donné, s'était mis à insulter ses fans sur Facebook à une époque. Parce qu'il y a eu des histoires de programmation, déprogrammation, de leurs concerts qu'ils donnaient, etc. Ça avait été mal expliqué, mais les fans ont dit « Ouais, on comprend pas, on avait acheté des places pour un super concert, vous étiez tout seul, et puis on se retrouve avec vous, devant, il y aura je sais pas quelle chanteuse mininette pour gamin, enfin voilà, et ça avait été mal expliqué, et puis le gars qui gérait le membre de Birdie Nam Nam, donc du groupe, l'artiste qui gère ça, s'était senti touché, mais au fond du cœur. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était mis à insulter tout le monde, il a dit « Allez-vous faire foutre ». Et donc ça avait duré une journée comme ça, cette histoire-là. Et en fait, je dis souvent aux gens, je dis « Quand la critique, elle vous touche directement en plein cœur, là, celle-là, elle fait mal, elle est dure, etc. » Et Seth Godin dit un truc là-dessus, il dit « De toute façon, moi je vous l'ai dit, quand vous démarrez, la critique... elle a peu de chances d'arriver comme ça. Bon, je dis pas qu'elle arrivera pas, mais dans tous les cas, il dit un truc intéressant. Il faut essayer de. Et je dis attention, c'est pas simple. Je dis pas que c'est simple. Il faut essayer de changer un petit peu de vision des choses, de dire bon, je me lance. Et il peut arriver trois choses. Il peut arriver une chose qui est je me lance, il y a des gens qui écoutent ce que je fais, qui regardent ce que je fais, qui ont lu ce que je fais, qui regardent, qui apprécient et qui me le disent. Il peut arriver un autre truc, c'est il y a des gens qui font la même chose mais n'aiment pas et me le disent, et on est là dans la critique. Et puis il y a tous les autres qui vous disent rien. Voilà. Et je l'ai dit, on a 90% de gens sur internet qui ne disent rien. Et Seth Godin dit un truc, il dit en fait que la plupart des livres restent ignorés, mais c'est valable pour plein de choses qui sont faites, et notamment sur Internet, parce qu'il y a tellement de contenu qu'il y a beaucoup de choses qui sont ignorées. Et il dit qu'en fait, si une critique négative ne lui gâche pas sa journée, c'est parce que pour lui, être critiqué, c'est un honneur. En fait, cela signifie qu'il a produit quelque chose digne d'être remarqué. Voilà. C'est intéressant comme notion, c'est-à-dire que si, et j'ai souvent remarqué d'ailleurs, quand quelqu'un prend la peine de vous faire une remarque, alors si elle est positive, bien sûr, c'est facile de lui répondre. Si c'est un ajustement sur ce que vous avez raconté, mais ça m'arrive de faire une erreur. Il y a une discussion là ces derniers jours sur, par exemple, ce qu'on enseigne aux étudiants. Est-ce que je me trompe pas de cible quand je leur fais de la stratégie en licence par rapport au master, etc. C'est une vraie réflexion. Ça me fait réfléchir d'ailleurs. Je passerai un bout de, et on aurait des réunions de cadrage avec les autres enseignants sur ce sujet-là, parce que c'est un vrai sujet qui est pertinent comme question, de savoir quelle est la progression qu'on amène aux étudiants. Mais si quelqu'un vous fait prendre le temps de vous mettre une critique négative, du moment que c'est pas de l'insulte, et qu'il a pris le temps d'écrire quelque chose, ça veut dire que quelque part vous lui avez quand même touché un bout de lui, quoi, de sa réflexion. Et puis, j'ai envie de vous dire quelque chose, il a pris du temps pour vous faire la remarque. Et donc, quelque part, s'il a pris du temps, c'est que, d'une part, il a pris du temps pour vous écouter, vous regarder, etc. Et s'il a pris du temps en plus pour vous écrire, même si c'est pour vous faire une critique, c'est que, finalement, c'était pas si négatif que ça. Voilà. Alors, je dis pas que c'est facile, parce qu'après, ça dépend des uns et des autres, et voilà. Mais, au moins, on essaye un petit peu de lutter contre sa peur. Et la peur, en fait, c'est aussi souvent la source de toute la procrastination, quoi. Quand on procrastine, quand on repousse toujours des choses, etc., bien sûr, je dis, on a ces histoires de craintes techniques, de « j'arriverai pas à le faire, j'ai en tête un truc, j'arrive pas à le faire, j'ai pas de temps, j'ai pas le processus pour le faire, j'ai pas la création, je sais pas comment le faire ». Mais souvent, en fait, effectivement, appuyer sur le bouton « publier », ça revient souvent à un problème un peu émotionnel, un petit peu cette question de peur. Bon, voilà, c'était un petit peu ma réflexion du matin sur ce sujet-là, mais je reviendrai dessus régulièrement, et puis si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais enchaîner sur deux questions qui m'ont été posées dans les dernières heures, et qui, j'ai décidé d'y répondre d'une manière groupée, parce qu'elles rejoignent pas la même problématique, mais... Alors, c'est une question que j'ai souvent sur notamment des réseaux sociaux. Alors, la première question, c'est Ch'ti Grenoblois, qui me parle de ce qu'il veut faire, de qu'il veut se lancer, etc., les contraintes, tout un tas de problématiques, de questions qu'il peut se poser, et en fait, qui pour lui juge que la difficulté, c'est l'aspect réseau social, et qu'il a l'impression qu'il faut passer des heures pour se faire un peu connaître, et donc, il était intéressé par avoir mon point de vue dessus. Et alors, j'ai une réponse qui est toujours la même, parce que souvent, on me la pose dans les ateliers, etc., quand je fais des ateliers pour l'emploi, et effectivement, il ne faut pas nier que les réseaux sociaux, ça prend du temps. C'est un bouffeur de temps énorme, mais il y a deux aspects sur cette histoire de bouffeur de temps énorme. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un aspect où vous consultez l'information, il y a un aspect où vous publiez de l'information. Quel est le temps que vous passez à consulter de l'information et quel est le temps que vous passez à publier de l'information? Les deux temps, ils sont liés ensemble, parce que souvent, en fait, le temps qu'on passe à consulter de l'information peut être intéressant, parce qu'il va nous aider, en fait, à mieux publier l'information, à la publier auprès d'autres personnes, etc. Les réseaux sociaux, là où ils prennent beaucoup de temps, souvent, c'est parce qu'on perd du temps à regarder n'importe quoi. Mais en fait, c'est notre nature. C'est la sérendipité, c'est la procrastination, c'est tout ce que vous voulez. C'est le jeu de Facebook, c'est le jeu de Twitter, c'est... Ils nous mettent toujours un truc sous les yeux pour qu'on perde du temps. Et puis, nous-mêmes, on a toujours ce même jeu, qui est de dire... Pardon, si je veux vous prendre votre attention, il faut que quelque part, j'arrive à vous accrocher l'œil. Je regardais l'autre jour des techniques de clickbaiting. Les techniques de clickbaiting, c'est je vous mets un truc à guicheur, et puis je vous attire chez moi, puis je vais vous faire perdre du temps. Alors je vous donne un exemple, mais ce matin, par exemple, j'avais une publicité sur Facebook qui apparaît plusieurs fois, C'est un truc qui dit, c'est un article qui est mis en avant et dit, voyez, 10 plus beaux décolletés de la télévision française, quoi. Vous savez irrémédiablement que si vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page sur laquelle on va vous montrer des photos, des petites starlettes de la télévision avec leur décolleté, etc. Et puis que ça va être fait pour vous mettre de la pub autour, ça va être découpé en pages, etc. La difficulté, c'est comment on arrête de cliquer dessus. Voilà, ça c'est une vraie difficulté. Après, quand on est dans une posture de se faire connaître et autres, le temps que l'on passe dessus, il peut être un investissement. On peut le considérer finalement comme un investissement, c'est-à-dire que quelque part, on n'est plus dans de la perte de temps, on est dans comment je m'aide moi-même à atteindre un objectif que je me suis fixé. Et cet objectif que je me suis fixé, des fois, c'est juste de faire entendre ma voix. Alors dans ce cas-là, le truc à faire, pour moi, hein, c'est de pas dire je peux passer tout le temps que je veux dedans, mais c'est de se fixer en fait un créneau. C'est se fixer un créneau et un temps limite. Ce que je disais l'autre jour là sur quand j'ai fait mon épisode en 5 minutes, si vous avez 5 minutes dans votre journée pour faire du contenu, ça suffit pour faire un streetcast, un épisode de podcast, mais ça suffit aussi pour faire une photo, ça suffit pour publier, etc. Là où je voulais pas vous mentir, c'est parce que l'autre jour j'ai lu un article qui disait voilà ce que les commerçants en 10 minutes tous les jours, ils peuvent gérer leur page Facebook, ils peuvent tout faire en 10 minutes chaque jour. Et quand je lisais l'article, dedans, il y avait la partie création de contenu et durait 3 minutes. Alors, moi, je veux bien, mais créer un contenu intéressant, inspirant, motivant, ou je sais pas quoi, en 3 minutes, je sais pas faire. Je vais le dire très très honnêtement là-dessus. Mettre une photo Instagram en 3 minutes, je sais pas faire. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a rechercher la bonne formule, etc. Il y a tout un tas de choses. Le simple fait de se connecter, etc. Donc, faut pas négliger que ça prendra du temps. Et moi, c'est ce que je te dis, Grenoble, c'est que oui, ça va prendre du temps. Les réseaux sociaux prennent forcément du temps. Je dis, moi, dans mon discours, il est compliqué de se passer des réseaux sociaux actuellement. Voilà. C'est un peu la difficulté. C'est-à-dire qu'on est un peu piégé dans l'histoire. Il fut une époque quand j'ai commencé, on n'avait pas ce problème de réseaux sociaux, quoi. Seul truc était clair, on mettait notre contenu sur un site, on faisait tout pour que Google vienne le voir, et puis une fois que Google l'avait vu, on laissait venir les gens, etc. Après, en même temps, on faisait de la newsletter quand même, et du mail, etc., et puis on faisait de la petite affiche, mais on n'avait pas ce problématique de réseaux sociaux, de temps que ça prenait, etc. D'un autre côté, l'information s'est déplacée en partie sur les réseaux sociaux aussi. Donc, quelque part, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on perd du temps, une opportunité. On perd du temps si on y passe trop de temps, mais on peut gagner du temps aussi parce qu'on peut le voir aussi comme un véritable accélérateur. Donc, pour répondre à ta question, tu vois, c'est un élément de réflexion qui est un peu compliqué à se fixer, c'est de se dire quelle est ta priorité, petit Grenoble. Quel temps tu peux mettre dedans? Et puis, et là, je vais revenir sur la notion de ce que dit Casey Neistat, le vlogueur, qui est intéressante. Il dit qu'en fait, dans la promotion, on peut voir deux aspects. Il y a pour lui, et moi je suis d'accord sur ce principe-là, c'est il faut d'abord être bon dans ce qu'on fait, et ensuite le reste viendra. Ça ne sert à rien de faire de la promotion à gogo sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de trucs, si tu fais la promotion d'un contenu vide ou mauvais. Alors mauvais au sens qui ne plaît pas. Je parle pas de mauvais sur le plan technique, sur le plan de l'écriture, sur le plan de la qualité de la vidéo, etc. Pour moi, un contenu mauvais, par exemple, on peut faire un contenu qui soit beau, chiadé, etc., des magnifiques images, etc., qui soit techniquement parfait, mais qui ne parle pas aux gens, qui leur sert à rien, qui leur fait perdre du temps. Donc je parle vraiment sur un contenu, finalement, de dire, est-ce que le bout de contenu, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le coup au départ que je passe l'heure, voilà, j'ai une heure pour faire du contenu, bah je prends cette heure-là pour faire du contenu, me faire un contenu qui parle aux gens. Et ensuite, derrière, je vais produire ces contenus-là, et peut-être ensuite, le fait de produire ces contenus d'ailleurs, le fait d'en faire plus, va m'aider à peut-être les produire un poil plus vite. Et peut-être que le temps que tu vas gagner là-dedans va t'aider ensuite, je dis peut-être, parce que chacun est fait un petit peu différemment, va t'aider ensuite à avoir du temps pour le promouvoir. Et c'est là où les réseaux sociaux, peut-être, tu vas pouvoir y passer plus de temps. Alors, je dis pas qu'il faut pas se mettre sur les réseaux sociaux dès le départ, parce que le temps que tu gagnes dès le départ, bah, comme je dis, c'est vraiment du temps gagné, quoi. Si tu lances ta page Facebook maintenant, même si tu te dis, bon, je la lance maintenant, mais j'en ferai, j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper maintenant, il faut trouver un moyen de la remplir au minimum, etc. Et c'est là où des outils comme CoSchedule, dont j'ai parlé l'autre jour, que j'appelle mon arme de publication massive, est super intéressant. Mais c'est là aussi, par exemple, où un outil comme Buffer. Moi, je sais pas si vous connaissez Buffer, j'ai la petite extension. Buffer, vous trouvez un contenu sur Internet qui vous intéresse, vous appuyez sur le bouton, vous dites, bah, je publie ça, je veux publier ça sur ma page Facebook. Et puis, vous avez fixé un calendrier, puis quand l'heure arrive, il prend le contenu dans votre liste de contenus potentiels et il publie. Moi, je dis, par exemple, il y a un moyen très simple de remplir une page Facebook, un compte Twitter, quoi que ce soit, c'est de faire ce qu'on appelle de la curation. C'est-à-dire de dire, tous les jours, je fais de la veille parce que c'est mon plaisir, je regarde des choses, etc. Et il y a des trucs qui pourraient intéresser mon audience. Donc, une fois que j'ai défini mon audience, qu'est-ce qui peut l'intéresser? Si, par exemple, je dis Grenoble, tu pars du principe que l'audience avec laquelle tu parles s'intéresse aux mêmes choses que toi. Ce qui est souvent le cas quand on fait du blog personnel, on essaye de parler à des gens qui on se dit, bah, ils nous ressemblent un petit peu. L'idée peut être de dire, j'ai mes réseaux, etc. Comment je vais les nourrir au départ? Je vais les rendre intéressants en mettant 10% du contenu que je fais moi et 90% du contenu que font les autres, mais que je juge intéressant. Et c'est par ce biais-là, pourrait très bien dire, bah, au fur et à mesure de la veille, je collecte plein d'articles, je les balance dans le buffer, en me disant, bah, tous les jours, t'en mets un. Et puis, le temps que tu gagnes, par exemple, les 90% de temps qui te restent pour ton contenu, bah, tu les passes sur ton contenu. Et quand ton contenu est fait, qui te plaît, etc., bah, tu balances aussi à son tour dans ta liste de publications. Et là, par contre, tu mets un poil plus de temps pour qu'il soit bien présenté, etc. Mon avis à moi, c'est que il est beaucoup plus efficace au départ de se concentrer sur un contenu qu'on trouvera bien, au sens inspirant, génial, motivant, tout ce qu'on veut, et que les gens trouveront inspirant, génial, motivant, utile, pratique, qui leur fait gagner du temps, qui leur donne une astuce, qui les permet de progresser, qui leur apprend quelque chose. Attention, hein, quand je dis inspirant, génial ou motivant, je dis pas il faut créer le contenu incroyable, etc., que personne n'a vu. Si par exemple, petit Grenoble, tu as une astuce qui, toi, t'a révolutionné ta vie. Moi, par exemple, l'autre jour, je racontais sur mon blog, je racontais comment je fais pour boire plus d'eau. Attention, l'astuce, elle est terrible, hein. C'est poser une bouteille d'eau sur mon bureau. C'est pas une astuce incroyable, mais cette astuce-là, pour quelqu'un qui est un chameau comme moi, c'est-à-dire la personne qui est capable de ne pas boire pendant des heures s'il n'y a pas la bouteille d'eau devant, eh ben, quand on collecte ces sortes d'astuces-là, etc., quelque part, on rend service aux gens, voilà. Donc, voilà où je voulais en venir, c'est de dire, ben, quelque part, si tu crées ce genre de contenu-là, si tu arrives à créer ce genre de contenu-là, que tu trouves intéressant, etc., tu auras besoin, bien sûr, de faire de la promotion sur les réseaux sociaux, et bien sûr, ça va te prendre du temps. Mais, les gens qui vont trouver ce contenu intéressant, etc., eux aussi vont t'aider à le relayer. Alors que si tu prends pas de temps, ou pas assez de temps pour créer du contenu intéressant, ben en fait, il y aura personne pour t'aider à relayer, et donc, le temps que tu vas perdre sur les réseaux sociaux sera forcément plus important. Et surtout que quand tu auras capté quelqu'un sur n'importe quel réseau social, quand tu l'auras amené chez toi, s'il trouve que ce que tu fais finalement n'est pas intéressant, tu auras perdu du temps. Et tu lui auras fait perdre du temps. Et il aura le sentiment en plus que tu lui as pris pour un gogo peut-être, parce que vous savez, les super vendeurs qui vous vendent un truc génial, mais qui en fait, derrière, vous rendez compte que c'est du vent, vous leur faites plus confiance derrière. Donc, mon avis à moi, je dis grenoblois, c'est de te dire, oui, les réseaux sociaux, c'est du temps, mais au départ, à mon avis, concentre-toi d'abord sur le contenu que tu veux créer et que ce soit un contenu que tu juges intéressant pour les gens que tu vises. Et ensuite, mets un petit peu quelques astuces, etc. Je reparlerai des outils et autres, mais quelque part, le reste viendra. Et comme je le dis, hein, plus on publie, plus ça devient facile de publier, de passer à l'action, etc., de trouver des processus de publication, de progression, etc. Et donc, plus ça va devenir ensuite probablement facile de créer de nouveaux contenus et de gagner un poil de temps dans ta journée pour mieux les promouvoir derrière. Et puis la dernière remarque, c'est que pour éviter de perdre trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est de pas partir sur tous et pas se dire je vais avoir un écosystème gigantesque avec 5 ou 6 réseaux sociaux, mais c'est de choisir celui sur lequel tu te sens le plus à l'aise. Attention, je dis pas celui qui a le plus de potentiel. Si tu trouves que tu es à l'aise sur Twitter, et pas parce que Twitter a... Facebook vient de passer les 2 milliards de membres, mais c'est pas parce que Facebook a 2 milliards de membres, si t'es pas allé sur Facebook, et que si t'es allé sur Twitter, que t'as déjà un bout d'audience, des gens avec qui tu discutes sur Twitter, fonce sur Twitter, quoi. Voilà. Sincèrement, le truc, il y a même des gens qui n'ont aucune chance d'être aimés sur Facebook, ne serait-ce que par leur activité, ou parce qu'ils sont trop nombreux, ou plein de raisons. Mais si sur Twitter, tu arrives à trouver ta voix, appuie sur l'accélérateur sur Twitter, et ça peut être le cas sur plein d'autres réseaux, voilà. Ça, c'est... voilà mon point de vue. Donc, j'ai essayé... j'ai pas été très synthétique, mais... c'est une question qui était, je trouve toujours, qui est un peu plus complexe qu'il y paraît pour répondre. Parce que sinon, j'avais une réponse qui était toute faite quand les gens... à une époque, il y avait des gens... j'ai eu quelqu'un un jour en formation qui n'avait pas été sympa et tout. Dans un atelier, dans mes ateliers Pôle emploi que je fais gratuitement, la personne n'était pas super sympa, était, vous voyez, un peu troll, quoi. Et à la fin, elle me dit, oui, mais c'est bien beau tout ce que vous dites, mais ça prend du temps. Et je dis, bah oui, ça prend du temps. Voilà, et je lui avais répondu en lui disant si vous n'êtes pas prêt à mettre le temps qu'il faut dessus pour le faire, je pense que c'est pas la peine que vous veniez sur Internet. Mais sauf que ça, c'est une réponse qui fonctionne pas, en fait. Donc là, je vous ai donné la vraie réponse avant, c'est comment vous arrivez à finalement vous dire que où est-ce que vous mettez d'abord le temps, sur quoi vous l'investissez. Et moi, je le répète, hein, moi je préfère l'investir sur un contenu et préférence un contenu de longue durée que de l'investir dans une promotion de quelque chose, d'un contenu de mauvaise qualité. Alors, deuxième question, c'est la question de Gaëtan. Alors, Gaëtan, que vous trouvez notamment sur Côté Geek, son Streetcast aussi, Côté Cast, etc. Il me demandait si j'avais pas prévu de parler des hashtags. Et il me fait une remarque, et c'est pas le premier qui me fait la remarque. Il m'a dit, j'ai remarqué que tu en mettais une chier. Bah, c'est son terme, hein. Plus de 10 sur Instagram, et je serais intéressé de savoir comment tu gères cela. Alors Gaëtan, oui, je mets une chier de hashtag sur mes photos Instagram. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est la clé de la visibilité passe en grande partie par le hashtag sur Instagram. Si le hashtag est inventé pour catégoriser du contenu sur Twitter, les 140 caractères ont fait que de toute façon, quand vous parlez avec plus de 2 hashtags, ça devient un peu problématique. On va dire 2 à 3 hashtags, ça dépend de la longueur de vos phrases et comment vous êtes capable de compiler ça. Sur Instagram, la limite c'est 30. Alors, mettre 30 hashtags, bon, moi j'en suis pas très fan, mais un jour j'y suis arrivé. Un jour j'ai voulu enregistrer un message et Instagram m'a dit, il m'a pas dit vous êtes trop de hashtags, il m'a dit vous pouvez pas enregistrer, j'ai enlevé un hashtag, c'est passé, donc j'en ai conclu que c'était ça. Alors, pourquoi je mets des hashtags? Effectivement, c'est pour me relier sur des thématiques et pour essayer de pousser mon compte sur des thématiques auprès de gens qui regarderaient certains hashtags. Il y a plusieurs types de hashtags. Le hashtag, en fait, peut être un hashtag de lieu, par exemple, quand je cours à Clermont, Auvergne, etc. Peut être un hashtag de communauté, la communauté des photographes, la communauté des photographes clermontois, par exemple. Si tu regardes mes photos de Clermont, j'ai un Eagers Clermont-Ferrand, Eagers Clermont, etc., qui sont là des communautés locales de photographes sur Instagram. Et dans ta ville, t'en auras aussi, t'en auras en France, etc. Il y aura des hashtags aussi émotionnels, c'est beau, c'est magnifique, OKLM, j'aime bien le OKLM pour au calme, etc. Donc ça, il n'y a pas de... c'est des hashtags plus émotionnels. Et puis il peut y avoir du hashtag d'événementiel, quand je participe à un trail, je mets le hashtag du trail. Un hashtag de lieu, aussi j'avais dit, donc il y a le lieu Cournon, Clermont, etc. au sens large, mais il y a le hashtag plus précis. Par exemple, si je suis au Jardin Lecoq, un jardin public dans le centre de Clermont, je peux marquer Jardin Lecoq, Clermont, Clermont-Ferrand, etc. Alors en plus, nous on a ce problème à Clermont, c'est que les Clermontois disent qu'on habite, on dit tous qu'on habite à Clermont, et les autres gens d'extérieur disent que c'est Clermont-Ferrand. Et puis on a un problème, c'est que entre ceux qui disent Clermont-Ferrand attaché et Clermont-FD comme hashtag, théoriquement, il faudrait utiliser 3 hashtags pour dire une ville. Et Paris n'a pas ce problème-là, quoi. Enfin, voilà, faut être clair. Donc, clairement, on a ce problème-là. Et puis, des fois, après, tu pourras trouver des hashtags de marque qui sont plus, en fait, une... Je le dis, hein, très clairement, c'est aussi un moyen d'essayer de se foutre sous le nez des marques pour essayer de moi, mon métier, c'est aussi d'essayer de discuter avec ces marques-là, d'essayer de voir un peu comment elles travaillent, etc. De voir si on peut être repéré, de voir, par exemple, sur mon blog de mail, comment je peux avoir des partenariats et autres. Et donc, c'est aussi un moyen d'essayer de rentrer dans le truc. Il y a plein de trucs que je teste, hein, d'ailleurs, avec les marques. Par exemple, sur mes baskets de running, j'ai écrit à Saucony, parce qu'elles ont un trou, mes baskets. J'ai renvoyé 2 messages par Instagram, ils m'ont jamais répondu, par exemple. Ça, c'est un test. Alors, je vais tenter de voir par d'autres vecteurs s'ils me répondent. Ça fait partie de mes tests. Des fois, je mets des hashtags de certaines marques, je regarde s'il y a des réponses. Par exemple, quand je mets un hashtag, je teste de la food tech en ce moment, quand je mets un hashtag de la marque, tiens, est-ce qu'ils me répondent ou pas? Des fois, je mets une mention, est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils mettent un commentaire? Est-ce qu'ils interagissent ou est-ce qu'ils viennent juste mettre un commentaire? Quel est le degré d'interaction qu'il peut y avoir ou pas? Voilà, ça fait aussi partie de mon métier, donc c'est pour ça que des fois j'ai plein de hashtags. Est-ce qu'il faut mettre 30 hashtags? Je pense pas, sauf si vraiment on a des cas où il faut en mettre beaucoup. Tu remarqueras aussi, Gaëtan, que sur mon Instagram, j'ai beaucoup de hashtags en anglais, qui sont des hashtags américains, qui sont aussi une question de donner un poil plus de visibilité à mon compte. Alors, ils ont un effet très pervers, c'est que sur l'instant, ils vont lui donner de la visibilité, mais qui va reperdre très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ces hashtags aussi, ça me permet d'observer un phénomène qui est intéressant. C'est que, quel que soit le hashtag que j'utilise, qui est un peu, vous voyez, dans les tendances mondiales, d'un coup, je me retrouve avec des gens qui viennent, je pense qu'ils ont des robots, je sais pas comment ils le font, ils viennent me foutre un j'aime sur ma photo en espérant que je repère leur compte. Et puis ils le suivent, et puis quelques jours après, ils me désuivent. Alors j'utilise IconoSquare comme service qui suit ça. Et par exemple, il y a des jours, je gagne 7 fans sur Instagram, et puis je les perds 3-4 jours après. Alors je vois pas si c'est exactement les mêmes, mais en fait, il y a des cycles. Et hier, par exemple, j'ai gagné un fan, mais en fait, j'en ai gagné 7 total, j'en ai perdu 6, alors que j'ai pas publié de photos. Ce qui est assez intéressant, mais par contre, où j'ai publié une photo, non, je sais pas. Si, j'ai publié une photo hier soir, mais c'était avant que j'avais les stats et je les avais. Et ce qui veut dire qu'en fait, il y a des gens qui viennent aimer, qui viennent désaimer, enfin voilà, mais qui sont là pour se repérer. Par exemple, je rigole parce que j'ai une salle de sport russe. Ça fait 10 photos qui viennent aimer chez moi, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de venir aimer une photo de mon compte en France alors que c'est une salle de musculation russe? À la limite, je comprends par exemple pour les petites, les fitness girls, les fit girls, etc., les coachs, etc., américains, qui viennent me foutre un j'aime, etc., parce qu'ils ont besoin d'avoir des comptes qui grossissent, d'avoir une grosse visibilité de leur compte. À la limite, bon, ils se disent, allez, si je lui mets un j'aime, il va venir aimer mon compte, etc., et j'ai le droit de gagner un fan. Mais l'autre jour, j'ai même été surpris sur Instagram, par exemple, il y a une salle de sport, parisienne, qui est venu se aimer, etc. Et j'ai même eu des pubs de cette salle de sport parisienne. Alors que j'ai aucune chance d'aller faire du sport dans cette salle. Je me suis même demandé comment la pub était ciblée. Donc voilà, sur les hashtags, il y a tout ce phénomène-là. Alors, l'idée des hashtags à utiliser, quand même, ça serait de savoir lesquels utiliser et lesquels prendre en priorité. Un bon astuce, c'est d'essayer de réfléchir dans ta notion de communauté à toi, qui serait de dire... est-ce que dans ta communauté que tu vises, des gens que tu vises, est-ce qu'il y a des hashtags qui sont plus ou moins importants, des marqueurs importants, des points de ralliement, etc. Et donc, essayer de les utiliser. Un bon moyen pour le faire, c'est de regarder ce que font les autres comptes de gens qui sont dans le même domaine que toi. Des gens que tu suis, que tu aimes bien, ou tu voudrais, dont tu t'inspires un petit peu. Regarder quels sont les hashtags et faire une liste des hashtags qu'ils utilisent. Et puis ces hashtags, cliquez dessus, regardez aussi les autres comptes qui remontent, les autres photos, regardez un petit peu ce qui se fait, ce qui se partage, etc. Ça donne de l'inspiration déjà. Et ça montre aussi un petit peu si ce hashtag est pertinent ou pas pour toi. Quand tu juges après que ces hashtags sont pertinents, bah tu peux les avoir dans une petite liste. et te dire, bah voici des hashtags que je peux utiliser, soit pour m'inspirer, pour trouver des idées, soit aussi pour derrière arriver à essayer de me faire connaître. Parce qu'en utilisant ces hashtags, on essaye quand même de se greffer sur une thématique globale, hein, sur une discussion globale, et on se dit peut-être qu'on arrive à se faire repérer. Après, comment les moi je les utilise, j'utilise sur iPhone une application qui s'appelle TagsDoc, en fait, qui est un clavier, qui rajoute un clavier dans le clavier iOS, hein, tout simplement. Hein. Quand je change de clavier, je passe emoji, puis après je passe au clavier TagsDoc. Et en fait, dedans, il a des catégories de... Il a des hashtags rangés par famille, peut-être une trentaine de grandes familles, dans lesquelles dedans, il y a les hashtags les plus populaires pour chaque famille. Donc il y a une famille sport, etc. Et puis il y a même des sous-divisions. Et puis dedans, en fait, après, tu peux cliquer sur les hashtags qui t'intéressent, ça les insère. Et puis tu peux créer avec la version payante, qui fait 2, 3 ou 0, je crois, tes propres familles de hashtags et tes propres favoris, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir dire, soit ça va insérer 10 hashtags d'un coup, par exemple, soit tu vas dire, bah, ça va me mettre une liste de hashtags dans lesquels je vais sélectionner. Moi, par exemple, dedans, j'ai créé mes familles de hashtags propres à l'Auvergne, au running, au challenge que je suis, par exemple le challenge flow. Il y a 2-3 hashtags qu'on utilise pour le challenge, bah, au lieu de les retaper, il y a pop, je clique dessus. Et ceux-là, j'ai utilisé sur le running, j'utilise à peu près toujours les mêmes. J'ai même une famille de hashtags, ça m'a rajouté 5 ou 6 d'affilée, etc. Donc ça, c'est voilà ma réponse la plus complète là-dessus. C'est bien de les utiliser. Il y a plein de gens, je le dis parce que, vous savez, sur Gaëtan, comme les autres le savent, des fois, vous cherchez des tutos sur YouTube, des blogs, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire « Ah, ça sert à rien d'utiliser hashtag, c'est nul de trop en utiliser, etc. » Et j'ai souvent remarqué d'ailleurs que c'est des comptes de gens qui sont ce qu'on appellerait des influenceurs. C'est-à-dire, j'ai vu des gens qui sont suivis par des milliers de personnes et qui vous disent ouais, mais non, mais en fait, les hashtags, ça sert à rien. Enfin, faut pas trop en mettre, j'en utilise pas trop, etc. Et en fait, c'est juste du bullshit, quoi. C'est-à-dire que parler à n'importe quelle personne qui a un peu de succès, moi, dans mes étudiantes, j'ai des filles qui sont suivies par plus de 100 000 personnes, 30 000, 60 000, etc. Dans ce que j'ai eu. Et je leur ai dit, si vous avez un secret à donner aux élèves quand ils viennent voir, c'est quoi? Et systématiquement, c'est de dire, bah, c'est grâce au hashtag, bien se positionner sur le hashtag, les discussions, repérer des gens, et aussi aller discuter avec les autres personnes. Sur Instagram, il y a les trois secrets les moins bien partagés sont faire la photo de qualité, donc du contenu, utiliser quelques hashtags pour bien se positionner, et aller discuter avec les autres gens, jouer le jeu, etc., mettre des commentaires, des j'aime, etc., y compris les photos des autres. Donc en suivant les hashtags que vous utilisez, allez sur les hashtags, sur les photos d'autres personnes, et leur mettre à leur tour un commentaire. Exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure comme démarche. Mais il y a certaines personnes, en fait, qui, maintenant, quand vous regardez les gros... certains gros influenceurs, si vous êtes suivi par 100 000 personnes, votre photo, elle aura du succès, quoi qu'il arrive, vous mettiez un hashtag ou pas, quoi. J'ai envie de vous dire, une fois que vous êtes suivi là-dedans. J'ai trouvé des gens, des fois, des vidéos, disant, oui, non, mais moi, je mets que 3 hashtags, pas besoin d'en mettre plus, ou je mets même pas de hashtags. Et c'est vrai, quand vous regardez certains comptes d'influenceurs, vous vous rendez compte qu'ils ont très peu de hashtags, certains. Ou alors, ils les mettent dans un commentaire, etc. Ils disent, ouais, mais si vous mettez 3 de hashtags, mettez des textes, etc. Et là, je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie. Il y a un autre truc que moi j'aime bien mettre dans, aussi tu remarqueras, Gaëtan, dans Instagram, c'est que je mets des textes de plus en plus longs, certains sont des mini milliers de blogs. Ça peut être le cas. Et je trouve que c'est aussi un moyen intéressant pour raconter un peu le contexte de la photo, certains ne le lisent pas. Mais en fait, c'est aussi une question de se dire, à terme, faut quand même pas se leurrer que bon, derrière Instagram c'est Facebook, bien sûr. Facebook va devenir un moteur de recherche comme un autre, hein, petit à petit. Et donc, les contenus qu'ils ont, bah, ils les référencent. Et je me dis, bah, plus vous mettez de contenu autour de vos photos, plus un jour, ils ont une chance de remonter sur des recherches. Alors, pour l'instant, quand on fait des recherches, on recherche des personnes, des lieux ou des hashtags, justement. Mais je pense aussi que le référencement des photos dans ces outils-là va passer par ajouter beaucoup de texte autour. Voilà, ça, c'est mon avis. C'est mon avis à moi. Voilà, donc j'en ai fini pour ces deux questions. Vous voyez, j'ai pris un peu de temps pour répondre à ça, puis je vous ai parlé un peu de la peur de publier. C'était je trouve c'était le comment dire J'avais envie de vous parler de ces thématiques-là parce que ça complète bien un petit peu ce que j'ai dit là les jours précédents. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres questions à me poser. Alors vous pouvez poser sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, je suis un peu partout. J'ai vérifié ce matin. Si vous utilisez un hashtag AskBertrand, normalement il n'y a que moi, hein, qui peut. Enfin, il n'y a que moi, pardon. Il y a le hashtag ce matin n'était pas utilisé. Donc vous pouvez mettre un AskBertrand ou un Ask votre coach web en hashtag à la limite si vous avez une question à me poser. Sinon vous me mentionnez directement. Un autre endroit où vous pouvez poser des questions, c'est sur le Discord des Streetcasters. Ceux qui écoutent le podcast mais qui n'écoutent pas le Streetcast le savent peut-être pas. Mais certains Streetcasters ont monté en fait un service Discord, un serveur Discord, sur lequel tous ceux qui font des Streetcasts et leur audience peuvent venir se connecter. Alors les Streetcasters sont clairement mentionnés, c'est classé en groupe, en thématique, etc. Et donc n'importe qui peut venir poser des questions, discuter, etc. Donc vous pouvez aussi venir poser une question par ce biais-là. Alors, je me connecte pas sur Discord tous les jours. Je me suis rendu compte, au malheur, je m'étais pas connecté sur Discord pendant même plusieurs semaines. Je l'avais dit un jour, c'est que Discord, c'est un outil, quand vous avez beaucoup de gens qui discutent, si vous mettez les notifications, ça bip, ça bip, ça bip. Un jour, je racontais l'anecdote, il y avait une discussion autour de la bière ou je sais pas quoi, pendant que j'étais en train de courir. Et quand je parlais d'ailleurs du temps tout à l'heure, du temps qu'on peut perdre, ben justement c'était moi cette histoire, je préfère passer du temps à vous parler pour faire le podcast, à préparer le podcast et à parler dedans, que passer du temps des fois à passer sur les réseaux sociaux ou sur du Discord, etc. Alors ce que je fais maintenant quand même, c'est que Discord j'essaye de m'y connecter, voilà, au moins 5 minutes par jour, pour regarder un peu les discussions, etc. Mais si par hasard, ce que je sais que c'est le cas dans certains, je ne vous réponds pas pendant plusieurs jours, si vous, merci, ne m'en veuillez pas, c'est juste que quelque part j'ai zappé, j'ai copié toutes les notifications. Mais c'est aussi ça, hein, je reviens un peu sur la question de Ch'ti Grenoblois, c'est aussi ça, hein, quand je dis un réseau social, vous pouvez pour y perdre du temps, discuter, faire plein de choses, etc. Mais ne perdez pas de vue les uns les autres, que quelque part, si vous avez envie de créer du contenu, il faudra passer du temps dessus, et que des fois, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, il part pas sur la création de contenu. Et ma priorité, actuellement, quand même, c'est d'arriver à créer du contenu, à vous parler tous les jours et à vous raconter les choses les plus intéressantes possibles. Voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui des sujets que je voulais vous aborder. Donc je vous ai fait le point sur tous les où vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, j'essaierai de répondre. Alors soit je ferai par salve, je prendrai 2-3 questions qui sont posées comme ça, soit potentiellement je fais un épisode spécifique à une question, soit je fais un épisode un peu mixte avec un bout de sujet plus un bout de question. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas, et puis il y a des questions auxquelles je réponds aussi de manière privée, par mail, etc. N'hésitez pas non plus, on est là tous ensemble, à essayer de progresser tous ensemble, et donc c'est un petit peu d'ailleurs, pour ça je vous recommanderais le livre de Seth Godin, Tribus, pour ça je suis aussi en train de le relire un petit peu. Une tribu en fait, c'est tout un petit groupe de gens qui avancent ensemble et qui discutent, qui progressent ensemble. C'est aussi le sens des communautés. Et ça sera un sujet que j'aborderai parce que ça fait plusieurs fois que je vous promets que je vous parlerai de la notion de communauté. Mais là-dessus, j'ai un peu de... Il faut que je fasse avancer un peu ma réflexion sur ma capacité à vous l'expliquer. Parce que je suis un peu en train d'évoluer là-dessus. Et puis je fais des recherches, parce que c'est aussi un de mes sujets de cours de l'an prochain. Et donc, c'est aussi à travers ce que je vous raconte là, ce que je lis, ce que je prépare, quelque part que mes réflexions avancent. Donc j'estime que mon épisode sur l'aspect communauté, etc., je l'ai retardé un petit peu. Ne m'en veuillez pas, voilà. Et puis je dois aussi vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais je l'ai fait en vidéo déjà sur YouTube, mais je vous en reparlerai. C'est toute la notion d'écosystème, de lien que vous créez entre tous les outils. Je prendrai du temps dans cette semaine pour vous reparler de chacun de ces éléments pris un par un, parce que c'est important et ça fera un petit cycle de choses là-dessus. Voilà, vous savez exactement de quoi je vais vous parler les prochaines fois. Donc je vous souhaite à tous une très très belle journée, soirée sur le moment auquel vous écouterez cet épisode et je vous dis à demain. Ciao ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.